Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, éleveuse de brebis Limousine et Hampshire, fondatrice de l'atelier Fibre Prolen. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Je vous emmène chaque mois dans ma vie paysanne et créative. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Nous sommes le dimanche 19 mai 2019 et vous êtes dans la saison 2, épisode 3 de mon podcast. Alors au menu, il y aura le segment à la ferme avec pas mal de choses au niveau du maraîchage parce que cette saison, des petites nouvelles des poules également, on parlera des moutons. Dans le segment atelier Fibrelaine, je vous parlerai de l'arrêt de mon activité des chèvres angora. Dans le segment lecture, un livre qui se passe en Égypte. Et dans le segment curiosité, on parlera du lin textile. Bonne écoute! À la ferme. Et le mois de mai commence et avec lui le retour dans le champ de maraîchage. On passe beaucoup d'heures à faire du repiquage, on commence le désherbage déjà, on a planté des tomates. Enfin voilà, c'est assez intéressant à cette époque et c'est super de mettre en place ce qu'on va manger pour cet été et les mois à venir et aussi de ce qu'on va vendre. Donc on a planté les patates, on en a fait un petit peu plus que l'an dernier. On a replanté des topinambours également. Ça se vend pas très bien, moi je trouve ça délicieux mais c'est vrai que ça se vend pas très bien. Donc ça on en a fait moins que l'an dernier. On a aussi repiqué toutes les tomates. Donc il y en a 2,5 fois de plus à l'extérieur que l'an dernier. Il y en a toujours 400 pieds à peu près dans les serres et là il y en a 120 à l'extérieur. Donc on va voir si ça va marcher. Elles sont juste sous les framboisiers. On a repiqué les oignons, on a repiqué 2400 poireaux que Hugo avait semés. Il y a 4000 autres qu'on achète qui doivent arriver bientôt. On a également fait les betteraves et semé les petits pois. On a également commencé à récolter les patates nouvelles dans les serres. Donc ça c'est super agréable parce que ça fait des repas délicieux. Patates nouvelles, salade, jambon, c'est mon plat préféré. Voilà au niveau des cultures. Ah oui, je me suis aussi pas mal occupée des framboisiers, donc j'ai beaucoup désherbé. Et puis on a récupéré du bois broyé, pardon. Pas très loin et donc j'ai paillé une partie avec ça et l'autre partie j'avais fait avec la laine de la tonte des agnelles. Donc voilà au niveau des petites plantations, repiquage, maraîchage. D'autres nouvelles, j'ai racheté des poules. J'ai été acheter 20 poules pondeuses à la foire aux Éroles. Donc on est à un troupeau de 50 actuellement et j'ai acheté des noires de Noirance. Donc c'est une poule qui ressemble un peu à la Maran et elle devrait faire des œufs un petit peu plus foncés que celles qu'on a actuellement. Actuellement on avait de la Isa Brown, une poule rousse, et de la Sussex, une poule blanche avec une collerette de plumes gris. Donc au début elle se mélangeait pas trop et puis là ça commence à voilà, elle commence à faire une jolie troupe bien mélangée. Par contre elles dorment dans mes pondoirs, ce qui m'embête parce que ça les salit, et elles n'ont pas encore pris le pli de se mettre sur les perchoirs. Je leur laisse un peu de temps et puis si elles sont encore derrière les pondoirs, il faudrait que je ferme les pondoirs avec une couverture la journée pour éviter qu'elles la nuit, pardon, pour éviter qu'elles dorment dedans. Donc, à voir. Donc là, elles sont au fond du verger. C'est une partie où il y a beaucoup d'herbes. Et ça fait 2 semaines qu'elles sont là-bas. Et on commence à voir un petit peu leur impact. Donc normalement, pas demain, mais mercredi, je vais les changer d'endroit. Je vais encore les mettre dans le verger, mais totalement à l'opposé. Voilà. Et donc ça, c'est super les poules. Vraiment, c'est. Je pensais pas que j'allais aimer autant et les trouver jolies et voilà. Alors au niveau des animaux, il y a du changement parce que j'arrête l'élevage de chèvres angora et la production de mohair. Donc j'ai vendu mes chèvres, j'ai vendu la dernière il n'y a pas longtemps, donc il n'y a plus de chèvres angora à la ferme du Moulin de Rousset pour plusieurs raisons, notamment parce que la ferme évolue, c'est l'atelier qui nous rapportait financièrement, qui nous rapportait le moins, ça me prenait beaucoup de temps d'élevage et beaucoup de temps de commercialisation pour une faible rentabilité. Donc on a pris la décision, on en a beaucoup parlé déjà en début d'année, et puis on a pris la décision il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'avais pris des poules un petit peu en prévision pour faire une transition douce, et puis mes chèvres se sont vendus plus vite que je ne pensais. Donc voilà, j'ai racheté des poules et j'ai augmenté la troupe de moutons et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais sûrement continuer à vendre mon stock de laine à la ferme et peut-être sur le site. Je vais bientôt arrêter aussi mon dépôt au monde guéret certainement. Et voilà, donc ça va évoluer petit à petit, mais en tout cas il n'y a déjà plus de chèvres. Ça fait bizarre, mais voilà, tout évolue. Et au niveau des moutons, donc ça n'a pas changé, il me reste trois petites agnelles à faire, mais j'ai mis tout le monde dehors ces derniers jours parce qu'il faisait beau. Et puis là, c'est assez mitigé, donc je pense que je vais les refaire passer quelques temps dans le tunnel en les sortant la journée, en les rentrant le soir. Pour que les petits, les plus petits, les plus jeunes démarrent bien. Bon, on est en train, enfin moi la semaine prochaine, je vais commencer à préparer un peu le matériel de fenaison. Donc une petite remise à niveau, regraissage, regonflage de la pirouette, de l'endaineur. Il faut que je change les couteaux de la faucheuse également. Et puis, il faut que j'emmène ma presse à balles rondes au garage, car elle est cassée, donc je peux pas faire des foins, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà pour les nouvelles de la ferme. Je pense que j'ai rien oublié. Nous on est très content parce qu'il a plu et là l'herbe est vraiment belle, elle est verte, un vert jeune tendre, c'est super super joli. Et donc les moutons ont à manger. Donc il y a trois lots actuellement, et donc avec Lopi, le chien de troupeau, qui commence à bien travailler, on continue les exercices. Donc c'est bien d'avoir trois lots parce que comme ça change. Il y a le lot avec les agnelles et les agneaux, le lot des brebis, et puis le lot des béliers et des brebis vides. Donc ça fait des tailles de lots différents et c'est très bien pour travailler. J'ai fait deux déplacements seul avec Lopi, ça s'est bien passé. Et donc ben, tous les jours on va voir les animaux ensemble. Et maintenant c'est très pratique parce que il les rassemble. Et moi je suis au milieu du troupeau et si j'ai besoin d'en attraper, c'est très facile en fait. Donc ça c'est chouette. Et la relation entre les brebis et moi a changé puisque c'est plus moi qui leur cours après, mais je suis un peu leur refuge entre guillemets. Donc ça c'est super. Je trouve qu'il met encore un petit peu trop de pression, mais on va régler tout ça. Voilà pour la ferme. L'atelier fibre laine. Eh ben, je vais vous reparler un petit peu du fait que j'arrête l'élevage de chèvres angora. Donc comme je vous disais, on a fait donc la comptabilité en début d'année et donc c'était ma quatrième année. Là, nous sommes dans la cinquième. Donc, le projet initial, c'était maraîchage et chèvres angora. La ferme qu'on a trouvée, il y avait déjà en place le troupeau de moutons allaitants pour la viande d'agneau et un verger. Et elle faisait en plus de la volaille de chair. Donc, nous, on a repris les moutons et le verger et on a créé nos deux ateliers, à savoir le maraîchage de plein champ de légumes variés et biologiques et l'atelier chèvre angora pour la production de mohair et la vente directe de la laine. Donc, cet atelier s'arrête. Je ne continue pas les chèvres angora. Donc, la prise de décision s'est faite suite aux résultats de cet atelier qui ne sont pas bons. Je ne vends pas assez de laine et par rapport au temps que ça me prend, c'est pas rentable. Donc voilà d'où c'est parti. Après, la réflexion a un peu évolué. Donc là, ça fait un petit moment. J'ai vendu mes chèvres il n'y a pas longtemps. Là, j'ai trouvé un autre équilibre et ça va. Et puis, j'ai l'impression que ma mission continue. Voilà, ce que j'aime vraiment, c'est la vie paysanne, la vie à la ferme. Pour moi, la laine est un produit fermier et donc je continuerai à transformer de la laine et à travailler la laine des moutons, pas à un niveau professionnel. Je pense que je ne ferai plus de transformation. Voilà, c'est très difficile d'en vivre à mon niveau parce que j'ai pas que ça. Et il faut quand même, pour avoir des prix de transformation intéressants, envoyer pas mal de laine à transformer. Et donc, ce qui veut dire que c'est de la laine à vendre. L'an dernier, j'avais quand même envoyé un peu plus de 100 kg de laine. Et donc, j'avais à peu près 70 kg de cônes rendus. Voilà, j'en ai encore en stock. C'est très long à vendre, c'est très long à teindre, c'est très long à photographier. Et maintenant, avec la vie de famille, ça a changé aussi ça. Et puis, je suis une très mauvaise vendeuse parce que je suis contre la consommation. Pas vraiment contre, mais pas à l'aise. Et quand on fait de la vente directe, il vaut mieux savoir vendre son produit. Pour la laine, c'était pas mon cas. J'avais beaucoup de mal à mettre en avant ce que je faisais. Et je ne suis pas dans le combat perpétuel pour réussir une vente. Donc le fait que j'arrête les chèvres, ça m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit, c'était quand même mon truc. Je voulais faire un produit fermier, mais pas un produit alimentaire. Je voulais une partie création. Et je crois que c'est très difficile d'en vivre. Et il y a plein de points qu'il est difficile d'aborder parce que c'est encore en réflexion pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas une activité qui n'est pas rentable. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est pour en vivre, c'est pas juste un amusement. Donc voilà, je m'étais donné 5 ans. Je suis dans ma 5e année, mais j'ai pris la décision avant la fin de cette 5e année que je ne voulais pas continuer. Je suis pas prête à faire ce qu'il faut pour que ça marche, notamment aller en salon, se déplacer, passer du temps sur internet, toujours proposer des nouveautés. J'ai plein de défauts qui me bloquent dans cette activité. Mais j'ai aussi l'impression que ma mission et mon envie, mon message est beaucoup plus général que la laine. Et depuis que j'ai arrêté et que j'ai pris cette décision, je me sens plus libre d'aborder d'autres sujets. Ici, dans ce podcast, mais également sur le blog ou sur Instagram. Et ça a été aussi une libération. Parce que le textile est très important et c'est important qu'on fasse le même chemin qu'on est en train de faire sur l'alimentation, à savoir une alimentation plus saine, plus locale. Et j'espère que ça arrivera dans le textile. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens, éleveurs, transformateurs. Je ne veux pas et je ne peux pas me battre pendant 15 ans pour faire vivoter un atelier laine. Voilà, c'est très... Ça peut paraître triste, mais c'est en fait très réaliste. Bon, ceci dit, tout va très bien. J'ai trouvé un nouvel équilibre et je suis vraiment très très heureuse et j'ai beaucoup d'énergie en ce moment. Si vous me suivez justement sur le blog ou Instagram, vous avez dû le noter, ça part dans tous les sens et c'est génial. Donc, pour l'atelier Fibrolaine, j'ai encore un petit peu de tissage. Donc j'ai acheté des bobines de coton et lin et j'ai commencé un tissage pour faire des torchons que j'ai terminé la semaine dernière. Et j'ai été vraiment, vraiment ravie de ce projet parce que je me suis documentée pour faire ça et j'ai découvert notamment Peggy Osterkamp, qui est une tisserande professionnelle et qui a une série de livres vraiment très, très intéressants. J'essaierai de penser à vous mettre les liens sur le tissage, notamment comment faire une chaîne, comment dresser un métier et puis comment planifier vos projets de tissage pour faire un tissu, pour faire des habits. Donc je me suis beaucoup beaucoup appuyée sur ces livres-là et j'ai vraiment fait une planification sérieuse et rigoureuse cette fois-ci. J'ai tout noté et j'ai fait donc 4 torchons entier fini et puis le cinquième c'était plutôt mon échantillon. Voilà, je voulais essayer des séquences de couleurs, des tailles de couleurs différentes et le résultat est, enfin moi je suis ravie du résultat au niveau notamment esthétique. C'est des couleurs qui vont très bien ensemble, c'est des couleurs que j'adore, notamment avec un fond noir. Je trouve ça très 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 vif, très très, les couleurs ressortent vraiment bien. Et c'est un tissage donc avec des couleurs noires, un peu un vert un peu anis et un bleu dans les turquoises, je dirais. Et le rendu est super super agréable une fois lavé, bien repassé. J'avais peur que ce soit un peu rigide, mais non, c'est assez fluide. Et c'est très joli. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous mettrai aussi le lien de l'article où je parle de ce tissage. Il y a tous les détails, les explications et les photos en libre accès si ça vous intéresse. Et donc pour finir ce tissage, j'ai dû coudre les lisières. Donc j'ai ressorti, réutilisé ma machine à coudre. Ça faisait bien longtemps que, je crois que c'était en novembre, mais pas de cette année, de l'an dernier, je crois que je l'avais utilisé. Et un tout petit peu, enfin cet hiver, mais vraiment trois fois rien. Donc j'ai ressorti dépoussiéré ma Bernina pour coudre les lisières. Et ça m'a remis le pied à l'étrier pour coudre. J'ai fait un patchwork quand j'étais enceinte d'Elga, donc il y a plus de trois ans presque. J'ai fait une couverture, une grande couverture, et il faut encore que je la pique. Voilà. Donc comme la machine est prête et je crois que je vais me lancer là-dedans les semaines prochaines pour finir cette couverture. Et ce tissage de torchon m'a également emmené vers le tissu. Parce que en fait, on peut faire des tissus. C'est vrai que je m'étais vraiment cantonnée à faire des produits, disons, finis, directement après le tissage. Donc des écharpes et des étoles. J'avais jamais pris la mesure du fait qu'un métier à tisser, en fait, servait à créer un tissu. Donc, le prochain grand projet qui m'occupe ces temps-ci, c'est j'aimerais me tisser donc un tissu en 100% lin avec les fils que j'ai commandés chez Fonti, leur nouvelle gamme qui s'appelle Merlin. Je vous invite à aller voir sur leur site parce qu'il y a vraiment des couleurs magnifiques. Moi, j'avais jamais vu de fil 100% lin, je crois. J'avais déjà vu des habits, enfin. Mais là, c'est vraiment une fibre, c'est lumineux déjà, c'est vraiment incroyable. Et puis, ils ont fait un super travail, donc Fonti, parce qu'il y a vraiment des couleurs des couleurs très 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 chouettes. Donc le prochain projet tissage sur le métier, c'est donc ce tissu et j'aimerais me faire une petite chemise avec, voilà, une chemise pour tous les jours, toute simple. Donc je suis encore dans la recherche, j'ai trouvé un patron mais je suis pas sûre que ça convienne. Je suis encore dans la recherche de patron et dans la planification en fait. Voilà, je ne sais pas encore quelle densité j'aimerais que le tissu ait. Je ne sais pas ce que ça va rendre si je le fais assez léger, est-ce que ce sera pas trop transparent? Si je le fais plus dense, est-ce que ça fera pas trop cartonner? Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça, mais je suis vraiment vraiment ravie et j'ai vraiment hâte de commencer la partie réalisation. Là, on est encore dans la recherche. Je relis mes bouquins de tissage, je regarde un petit peu sur les sites et tout. Alors, je trouve très peu de patrons. Alors, je sais même pas comment on appelle ça, de patron de tissage en français. Je sais pas. Si vous en connaissez, ça m'intéresse de voir la forme que ça prend et comment ça marche. Il y en a beaucoup en anglais. Enfin, moi, tous ceux que je regarde, ils sont en anglais. Mais j'aimerais en avoir un en français, notamment pour traduire des termes anglais que je sais pas traduire en français. J'ai acheté récemment un livre sur le tissage qui est assez ancien. Il y a les explications pour faire des serviettes notamment, puis pas mal d'autres choses. Mais je trouve que c'est pas aussi bien écrit et aussi schématique que les patrons anglophones. Que voilà. Je suis en train de regarder un livre là sur le tissage suédois, je crois. Là, c'est assez bien écrit. Donc je vais voir. Donc voilà pour la partie tissage. Un autre projet en cours dont je vous ai sûrement parlé, c'est la couverture en crochet que je fais. Donc je continue, j'essaie de faire un rond par soir, non plutôt pardon, 4 ronds pardon, par semaine. Pour l'instant j'arrive à m'y tenir, mais il m'en reste encore pas mal en fait. J'ai 109 petites bobines de laine de couleurs différentes et j'ai pas dû en faire un quart. Donc voilà, ça c'est la suite au prochain épisode, comme on dit. Lecture. Dans ce segment, je vous parle du livre que j'ai lu ce mois-ci. Ça s'appelle La vengeance des dieux de Christian Jacques. C'est un livre en deux tomes, je crois, initialement. Moi, je l'ai acheté les deux tomes rassemblés. Et c'est un livre qui se passe en Égypte, au temps des pharaons. Alors, je vais vous lire le résumé du livre. Le jour s'est levé depuis longtemps sur le royaume du soleil, et Kel, le jeune scribe, s'éveille à peine. Aux yeux de ses chefs, au bureau des interprètes, ce retard lui vaudra certainement une forte sanction. Une bagatelle en comparaison du sort réservé à ses collègues plus ponctuels. Car la mort a frappé et l'illustre bureau ne compte pas un seul survivant. Pris de panique, le jeune homme s'enfuit, non sans emporter le papyrus crypté à l'origine de ce carnage. Pour les autorités, cela équivaut à signer son crime. Dans sa cavale, Kel n'aura d'autre choix que de décoder le manuscrit et déjouer le complot qui, en haut lieu, menace les valeurs ancestrales d'une Égypte livrée aux usurpateurs. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout, mais il a une assez impressionnante bibliographie. Que dire sur ce livre? Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc. J'ai trouvé assez entraînant, assez rapide et facile à lire. Et puis, c'est vrai qu'au milieu du deuxième tome, je me suis un peu lassée. Je l'ai fini quand même, mais voilà. Donc je trouve que il y a assez peu de descriptions finalement de l'Égypte et du temps où il écrit. C'est vraiment un livre d'action, c'est très très actif. Et je le trouve assez sympa, même s'il y a certaines choses qui sont du domaine un peu rigolo et je trouve que c'est assez décalé par rapport au livre, notamment un âne qui repère des policiers à chaque fois. Enfin bon, voilà, il y a des trucs assez rigolos. Je sais pas, je trouve un peu décalé quoi. Donc, Kel, c'est un scribe qui un matin se lève en retard et il se rend à son travail, donc qui est le bureau des interprètes. Tous ses collègues et son chef sont morts. Il trouve un manuscrit et sur ce manuscrit, son chef avait eu le temps d'écrire, décode ce manuscrit et voilà. Donc, il a emporté ce manuscrit et en fait, tout le monde le recherche parce que les autorités le croient coupable de cet assassinat. Et donc dans sa fuite, il est aidé par un ami, Bébon. Donc Bébon, c'est un ami à lui qu'il connaît bien et c'est un comédien. Donc il a pas mal de relations et grâce à lui, il peut se cacher. Il peut se cacher dans les différentes villes où il passe. Et en fait, l'intrigue est assez bien menée parce que vraiment, on ne sait pas qui mène ce complot en fait. Et c'est assez prenant. Enfin, on veut savoir la fin. Et il est aidé également d'une prêtresse, Nitis, qui l'aide parce que elle, c'est la vérité qui est importante par-dessus tout. Je suis quand même assez mitigée parce que il est bien, il est entraînant, mais en même temps, je trouve qu'il n'y a pas assez de description, il n'y a pas assez de profondeur, je dirais. Et puis voilà, il y a des trucs un peu gros, il arrive toujours à s'échapper quasiment à la dernière minute, grâce à notamment à l'âne qui arrive et qui bouscule les policiers, ou grâce à une courtisane. Enfin bon, voilà, c'est un peu des fois les chutes et les résolutions de certaines situations sont assez, je trouve, assez peu élaborées. Ça marche quand même parce que j'ai voulu aller à la fin de ce livre et c'est quand même agréable à lire. Et je crois qu'il y a un tout petit peu de surnaturel, mais pas vraiment. Enfin, c'est difficile à définir. Bon, j'ai beaucoup aimé le début, mais c'est vrai que le tome 2, et notamment à partir du milieu du tome 2, c'est assez long quand même, je trouve. Et puis les rebondissements sont assez rocambolesques finalement. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Je suis pas sûre de lire d'autres livres de lui. J'avais regardé un petit peu sa bibliographie. Il y avait des titres qui me plaisaient, mais je crois pas que je vais continuer avec cet auteur. Donc je vous en parle quand même parce que j'ai passé un bon moment, même si à la fin j'aurais aimé que ce soit un peu plus court. Curiosité. Alors, dans ce segment, on va parler du lin, et notamment du lin textile, qui est une étoffe fabriquée avec la plante qui s'appelle le lin cultivé ou Linum usitatissimum. Donc, les premières marques d'utilisation du lin remontent au néolithique, il y a environ 10 000 ans. Donc, le lin était employé en Égypte pour les bandelettes des momies, parce que le lin est imputrescible. Et on faisait également des vêtements, notamment pour les prêtres, qui symbolisaient la pureté. Donc, les Égyptiens appelaient le lin lumière de lune tissée. Ça en dit long sur leur passion pour cette fibre. Donc, les navigateurs phéniciens, qui est le Liban actuellement, ont acheté le lin en Égypte et l'ont répandu en Europe, notamment en Grèce, en Italie, en Irlande, en France et en Angleterre. Et partout, le lin a été vraiment apprécié, notamment pour ses usages pratiques et le fait que c'était une fibre assez solide. Et on en faisait des usages vraiment variés. Alors, 500 ans avant Jésus-Christ, les toiles de lin servaient de voile pour la flotte romaine, tandis que d'autres, tissées plus épaisses et imbibées d'huile, durcies à l'air, étaient utilisées par les Étrusques, un peuple d'Italie, Il s'en servait comme armure de combat. Et cette méthode de durcissement du lin a donné lieu aussi à la fabrication de récipients. Bien avant Jules César, la culture du lin en Gaule était très répandue. On sait que Charlemagne a renforcé l'artisanat autour du lin car il aimait beaucoup cette fibre. Et il imposa même sous forme écrite dans son livre de loi que le lin soit filé à la cour et que chaque ménage de France se procure l'outillage nécessaire pour le travailler. Au XIIIe siècle, à Cambrai, dans le nord de la France, le nord de la France est encore une région où on cultive beaucoup, beaucoup de lin textile. Un dénommé Jean-Baptiste de Cambrai a mis une technique, un point de tissage, qui faisait des étoffes très fines et qui donne naissance aux batistes, c'est donc les toiles de lin très fines, qui sont de grande qualité, très belles, et qui rencontrent beaucoup de succès à travers le monde, notamment en linge de table, en linge de corps et en mouchoir. À l'époque de la Renaissance, la tenue quotidienne devient un peu plus raffinée, et le mot toilette vient de l'ancien français tiolette, qui désigne alors un lin léger utilisé pour les chemises. En 1917, Philippe de Girard déposa son premier brevet au sujet de la filature du lin et il invente la première machine à peigner le lin. Le lin est considéré comme le plus vieux textile du monde et on a pu voir qu'il a été très apprécié depuis longtemps et partout. Et aujourd'hui encore, il suscite un engouement particulier. Et il est très polyvalent parce que le lin peut être très élégant, très classe, mais également très décontracté, très naturel. Et donc, comme je disais, il est encore beaucoup cultivé dans le nord de la France et en Belgique et aux Pays-Bas également. Et c'est la France est encore numéro 1 mondial en termes d'hectares consacrés au lin textile. Alors le lin possède une croissance assez rapide, la plante mesure environ 1 mètre. Au sommet de la tige, il y a une petite fleur bleue qui éclot à peu près vers juin, mi-juin. Donc la récolte du lin a lieu un mois après la floraison du lin, quand il devient jaune. Donc là, il y a plusieurs procédés. Donc il y a d'abord l'arrachage, ensuite le rouissage, le teillage, le peignage et la filature. Donc je vais vous décrire un petit peu toutes ces étapes. L'étoffe s'obtient par la macération des tiges de lin, donc ça s'appelle le rouissage, à même le sol, sous l'action des intempéries, afin d'en extraire les fibres. Une fois le lin arraché, on parle de paille de lin, il est étalé sur le sol, et là c'est l'humidité et les bactéries qui s'occupe de désagréger la partie externe des tiges et qui favorise donc l'extraction des fibres à l'étape suivante, l'étape du teillage. Donc le lin est retourné plusieurs fois au cours du rouissage pour que cette dégradation soit homogène. Et donc cette alternance d'humidité et de vent permet un bon rouissage. Avant, le rouissage se faisait directement dans un bain d'eau, mais aujourd'hui, ça a changé pour des raisons notamment écologiques et économiques. Donc, le teillage, c'est l'étape suivante, c'est celle qui permet aux pailles de lin rouies, donc qui ont subi l'étape du rouissage, d'être broyées et battues pour éliminer les résidus comme le bois et l'épiderme des tiges. Donc les fibres sont ainsi séparées. Dans le lin, il y a plusieurs fibres. Donc il y a des fibres longues, qui sont les plus qualitatives du lin, que l'on appelle le lin teillé, et des fibres plus courtes, qui sont palées, appelées étoupes. Et donc ça, on les valorise aussi, mais c'est un produit moins qualitatif. Les fibres sont ensuite répandues en nappes et lavées. Et les graines de lin ont été récoltées également et mises de côté parce qu'on en fait de l'huile, une très bonne huile. Donc après le rouissage et le teillage, il y a le peignage et la filature. Donc avant d'être utilisées par l'industrie, les fibres doivent être filées. Et donc pour préparer la fibre à la filature, on peigne d'abord les fibres. C'est-à-dire que toutes les fibres vont être parallèles. Donc le lin n'est pas filé comme le coton, qui a des fibres plus élastiques et plus longues, plus homogènes. Pour le lin, il y a des techniques spécifiques et des techniques spécifiques, notamment à la longueur des fibres. Donc plus les fibres seront longues, on utilisera une technique, et plus les fibres seront courtes, on utilisera une autre technique. Donc pour les fibres longues, c'est la filature au moulier, c'est-à-dire qu'elles sont réunies en mèches, on leur donne une légère torsion, et puis après elles sont étirées pour ramollir la fibre. Et là, on obtient vraiment des fils fins, des fils lisses, très réguliers, hautement qualitatifs et qui ont une certaine brillance. Et la filature au sec, elle, est surtout faite pour les fibres courtes, les étoupes. Donc elles sont étirées sans eau, elles sont filées, un petit peu comme de la laine en fait. Ces fils obtenus sont plus grossiers que les fils issus des fibres longues transformées par une filature au moulé. Et en fait, ces fibres sont souvent mélangées à une autre matière, notamment la soie, pardon, la laine ou encore le coton. Et donc ce fil sera pas 100% lin, mais il a aussi plein d'autres avantages, notamment avec la laine, il sera un petit peu plus chaud, avec la soie ce sera très brillant, très élégant, avec la viscose ça fera des tissus très fluides, qui ne sont pas faciles à froisser. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Donc le lin, il y a plusieurs utilisations. Il y a notamment l'habillement. Donc ça, c'est connu depuis très longtemps et ça a des caractéristiques vraiment spécifiques, notamment le fait d'absorber l'humidité. C'est un textile qu'on utilise beaucoup en été parce qu'il reste frais et il est aussi antibactérien et hypoallergénique. Donc ça, c'est vraiment des qualités assez reconnues, enfin assez importantes pour le lin. Et un vêtement en lin est très 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 solide. Apparemment, sa résistance est deux fois supérieure à celle du coton. Donc il ne peluche pas, il ne se déforme pas, il n'y a pas du tout d'élasticité dans le lin. On peut le tisser, on peut également le tricoter. Voilà, il y a plusieurs produits qu'on peut faire à partir du lin, en tissage ou en tricot. Enfin voilà, c'est très 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 large et ça fait vraiment des tissus très reconnaissables. Enfin je trouve que le lin on voit que c'est du lin. Moi personnellement j'aime beaucoup beaucoup cette fibre et ce tissu. Et le lin peut être également utilisé dans l'ameublement, dans la décoration intérieure, et c'est souvent ça représente souvent le naturel, quelque chose de sain, ce qui est vrai. Donc on peut l'utiliser pour des rideaux, pour des coussins, pour du linge de lit, du linge de table, du linge d'office comme on dit, ou torchon selon moi. voilà, donc c'est le lin, c'est assez noble, c'est simple, c'est intemporel, c'est élégant, c'est résistant, c'est durable. Et on dit aussi, je ne sais pas s'il y a des études, mais que les draps en lin favoriseraient le sommeil. Il y a une nouvelle mode en ce moment, enfin depuis quelques temps, c'est le lin lavé. Donc ça, c'est un lin qui subit pas mal de lavage avec des adoucissants pour vieillir, disons, le lin. Donc il paraît un petit peu plus froissé que le lin normal, plus irrégulier, avec une sensation plus vivante, enfin voilà. Et puis le lin a des couleurs aussi assez profondes, enfin il prend assez bien les teintures, c'est très très joli, il a une bonne affinité tinctoriale, et il faut peu de teinture pour que la couleur soit assez intense et durable dans le temps. Il s'est développé aussi ces derniers temps des tissus plutôt techniques avec le lin, notamment liés à l'éco-construction. Et puis à l'éco-conception, notamment pour les automobiles, pour les bateaux. Il y a également du matériel sportif comme des skis qui contiennent du lin, des dalles de sol, ça fait une isolation thermique. Voilà, c'est assez utilisé en construction également. Les matériels de musique aussi peuvent en contenir, comme les enceintes, pour une bonne absorption des vibrations. Donc voilà, les composites lin sont une alternative à l'usage du carbone et de la fibre de verre qui sont consommatrices pour leur fabrication. Donc là, on a parlé du lin et de sa transformation textile, mais il y a aussi d'autres transformations que le textile, et c'est une plante très intéressante sur les plans écologiques parce que sa culture est très peu demandeuse d'eau et très peu polluante. C'est une plante assez rustique. Dans le lin, pratiquement tout est exploité, donc les fibres pour le textile, aussi les graines pour l'huile. Les graines de lin nature, c'est très bon dans les salades, enfin voilà. L'huile de lin, évidemment, pour tout ce qui est peinture également. Les étoupes de lin, ça permet de faire des nappes de fibres non tissées. Les anas, donc ça, c'est les déchets, entre guillemets, de la plante qui ressemble à du bois. C'est très. Ça a une. Pour la filière énergie, c'est très intéressant. Enfin voilà, dans le lin, il y a beaucoup de sous-produits, disons, qui sont très très intéressants. Donc c'est la France est le principal pays d'Europe à cultiver le lin textile, notamment en Flandre, en Picardie, en Normandie, un peu en Bretagne et dans le Pas-de-Calais. Il y a encore beaucoup de cultures de lin. L'Europe de l'Est aussi cultive beaucoup de lin et est assez connue pour le lin textile également. Donc d'après une récente découverte, les plus anciennes traces de la culture du lin datent de 36 000 ans en Géorgie occidentale. Et le lin est cultivé depuis 9 000 ans en Asie pour produire de l'huile d'abord. Et après, on a trouvé son utilisation en tant que textile pour faire des vêtements et aussi des objets. Et ça coïncide un petit peu avec l'apparition de la poterie. Le lin est utilisé dans la période où on passe d'une vie de chasse de cueillette à une vie plus sédentaire, et notamment lorsqu'on commence à cultiver des céréales. Les Babyloniens et les Égyptiens utilisaient des cordes en lin déjà, et les momies des pharaons utilisaient beaucoup de lin, et on dit qu'il fallait à peu près 1 km de lin pour momifier un adulte. Je vous mettrai des liens vers des articles et des livres si ça vous intéresse. Donc j'espère que cette petite histoire du lin vous a plu. Moi je découvre cette fibre végétale et j'avoue que je suis assez conquise par la matière, par le toucher. Et j'espère que je pourrai vous montrer bientôt mon tissu tissé en lin et que je vais me coudre une chemise dans les prochains mois. Je vais vous laisser à vos occupations. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Je vous retrouve certainement dans un mois ou un peu plus pour d'autres lectures, d'autres curiosités, sûrement encore du tissage et puis des nouvelles de la ferme. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, suivant quand vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt. Et surtout, restez curieux!